Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, de vives critiques émanant de la Fédération nationale des pompiers qui cible les agences régionales de la santé, de piètres managers de crise non sans qualifier de véritable esbrouf, des évacuations de victimes entre régions par TGV, précision dans un instant de Diane Berger. Une première, la création d'une commission d'enquête parlementaire chargée d'évaluer les politiques publiques de santé environnementale. Et puis le président algérien Abdelmadjid Tebboune attend des excuses de la France à la faveur de la restitution des restes mortuaires de 24 combattants anticoloniaux inhumés ce matin dans le carré des martyrs de la Révolution au cimetière El Alia à Alger. C'est un retour d'expérience qui met en exergue de lourds dysfonctionnements constatés pendant le confinement. L'État n'aurait pas dû choisir de confier la gestion de la crise au ministère de la Santé, selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qui a synthétisé les relevés de ces casernes. Constat sans appel, validé par le président de l'Assemblée des départements de France. Bonjour Diane Berger.
Bonjour.
Diane, les pompiers martèlent que le gouvernement n'a pas mobilisé, on pourrait le dire comme ça, les bonnes personnes au bon moment.
Les premières visées, ce sont donc bien les agences régionales de santé. Le rapport des pompiers dénonce leur lourdeur. Pourtant, elles étaient au cœur du dispositif de lutte contre le Covid-19. De manière plus large, les pompiers condamnent le pilotage de la crise mené surtout donc par le ministère de la Santé au détriment du ministère de l'Intérieur. Les explications de Patrick Erchan, médecin urgentiste et vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on est resté sur un champ uniquement santé pendant très très longtemps, alors que très très vite, c'est une crise dont les effets et la réponse excédaient largement le seul domaine de la santé. La crise a été gérée pendant très longtemps par des personnes qui sont estimables, et je le dis d'emblée, nous n'opposons pas les personnes contre les personnes, mais par des personnes dont le métier est de gérer et d'administrer les systèmes de santé, et pas de gérer une crise.
À cause de cela, les préfets de département ont été mis de côté, les pompiers sous-mobilisés, mal informés, alors même qu'ils ont l'habitude de gérer des crises, on l'a vu avec la grippe aviaire, la grippe A, les attentats. Et ce constat, il est partagé par Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, au micro de France Info ce matin.
Hélas, les pompiers ont raison. On n'a pas assez utilisé les vrais managers de crise que sont les préfets de département. Et la dichotomie entre les préfets et les agences régionales de santé a conduit à des aberrations comme par exemple ces cliniques privées à proximité des foyers de Covid non utilisés et parfois alors qu'on faisait des transferts très lointains. Et nous avons été obligés, les collectivités locales, de pallier leurs absences dans beaucoup de domaines.
Et parmi les autres défaillances listées dans le rapport, les pompiers dénoncent justement ces transferts de malades parfois à des zones très loin, les évacuations par TGV, une opération selon eux de communication pure, superflue. Et ils s'inquiètent enfin de la saturation du numéro du SAMU pendant la crise. Il a fallu attendre parfois 45 minutes pour avoir une réponse.
Merci à vous Diane Berger, un élu local dont le témoignage pourrait être précieux au chapitre « Quels enseignements tirer de la gestion de la crise sanitaire ?» Édouard Philippe, réélu sans surprise, maire du Havre ce matin, par 47 voix sur 59 lors de la première séance du nouveau conseil municipal. L'écologie n'est pas une option, mais une obligation. C'est l'une des premières déclarations de son successeur à Matignon, Jean Castex, qui aura sur son bureau dans quelques mois un outil précieux, à savoir les relevés d'une commission d'enquête parlementaire créée pour passer au crible les politiques publiques de santé environnementale. Perturbateurs endocriniens, pollution atmosphérique, pesticides, explosion des cancers et des maladies chroniques. L'impact des atteintes à l'environnement sur notre santé n'en finit pas d'inquiéter. Cette commission d'enquête est portée par la députée sans étiquette Sandrine Josso. Il se trouve que dans son département de Loire-Atlantique se situe un cluster de cancers pédiatriques avec une vingtaine d'enfants qui ont développé des tumeurs depuis 2015. Il est donc urgent de comprendre la cause de tels drames. Sandrine Josso.
Moi-même, je connais bien cette problématique de cancer parce que j'ai eu aussi un enfant qui a déclaré une leucémie il y a quelques années. Donc, je connais les dysfonctionnements de par l'intérieur en ayant vécu ça de manière très personnelle. Et enfin, il y a plein de spécialistes nous disent qu'il y a quand même des développements de maladies qui n'existaient pas et qui sont en partie liés à l'environnement. Mais on ne fait rien pour lutter contre. Donc, est-ce qu'on va rester avec ce tabou-là et est-ce que on va continuer à soigner sans s'intéresser à éviter que les concitoyens attrapent des maladies liées à l'environnement ? Donc, on sait très bien qu'on a aujourd'hui des informations, que ces informations ne sont pas utilisées pour faire de la prévention. Donc moi, mon travail, il est d'actionner ces leviers-là. Sans la prévention, sans la mise en lumière et l'identification de facteurs qui favorisent ces maladies, on n'avancera pas. C'est l'objet de cette commission d'enquête. C'est pour la première fois en France, regarder de près comment fonctionnent les politiques publiques liées à la santé environnementale. Peut-être qu'elles fonctionnent bien dans certains secteurs, mais j'en doute. En tout cas, on peut certainement faire mieux.
Des propos recueillis par Tara Schlegel. Elle débutera probablement ses travaux à l'automne, cette commission, et comme toutes les commissions d'enquête, elle auditionnera des personnalités pendant 6 mois et pourra déboucher sur une, voire des propositions de loi. L'Algérie enterrée ce dimanche, jour anniversaire de son indépendance, les restes mortuaires de 24 combattants anticoloniaux remis par la France dans le carré des martyrs de la Révolution à Alger, obsèques solennelles. Hier, des centaines de personnes se sont d'ailleurs recueillies devant les 24 cercueils entreposés dans le hall du Palais de la Culture. Une restitution qui œuvre à l'apaisement entre les deux pays, mais il manque des excuses. Christian Chesneau.
L'histoire reste encore et toujours une épine douloureuse dans la relation entre Paris et Alger. Le président Abdelmadjid Tebboune a certes salué la restitution par la France des restes de 24 combattants algériens tués au début de la colonisation au 19e siècle, mais ce n'est pas suffisant. Il attend plus de son homologue français, comme il l'a dit dans une interview accordée à France 24.
Je pense qu'on a déjà reçu des demi-excuses. Il faut faire un autre pas. C'est pour ça que je vous dis qu'avec le président Macron, on doit affronter ce problème de mémoire qui hypothèque beaucoup de choses dans les relations entre les deux pays.
En rappelant qu'Emmanuel Macron, avant son élection, avait qualifié la colonisation en Algérie de crime contre l'humanité, Abdelmadjid Tebboune considère que le président français est un homme de bonne volonté sur la question mémorielle.
Moi, je trouve qu'avec le président Macron, nous pouvons aller loin dans l'apaisement, dans le règlement du problème de la mémoire. C'est quelqu'un de très honnête et qui veut apaiser la situation. Et je trouve que le président Macron est très sincère dans ce qu'il fait. Il est honnête, il est très propre, point de vue historique.
Un bon climat, selon le président algérien, pour envisager une visite d'État à Paris, pour le moment retardée à cause de l'épidémie de Covid-19.
Des élections législatives en Croatie ce dimanche. Le parti conservateur au pouvoir et l'opposition social-démocrate sont au coude à coude. C'est un nouveau venu sur la scène politique, un musicien populaire qui pourrait jouer les arbitres lors de la présidentielle. Une candidate de gauche l'avait emporté. Mais un vent populiste, nationaliste souffle sur le pays. Marie-Pierre Véraud.
Et le visage du populisme de droite croate est un chanteur folk d'une cinquantaine d'années, diplômé d'économie. Miroslav Skoro, populaire, nationaliste à souhait, nostalgique des oustachis, ce régime pro-nazi qui revient en vogue dans la Croatie d'aujourd'hui. À la tête de son mouvement patriotique, il a en tout cas de quoi inquiéter la droite, accusée de tiédeur, d'autant que le Premier ministre, diplomate polyglotte, crédité d'une bonne gestion de la pandémie, est moins à l'aise avec les catholiques les plus conservateurs qui lui reprochent de trahir les valeurs de l'Église, quand Skoro, lui, fait campagne sous l'étendard de la patrie, place l'homme croate et la famille au cœur de sa politique et juge que les femmes violées ne devraient pas avoir le droit d'avorter sans l'autorisation de leur famille. Il a surgi sur la scène politique croate lors de la présidentielle au début de l'année, raflant près d'un quart des suffrages. Et à la différence du patron des sociaux-démocrates jugé plutôt terne, Miroslav Skoro semble dans cette arène tout aussi à l'aise que sur une scène de concert.
Les livres écrits par les personnalités du mouvement pro-démocratie à Hong Kong ne sont plus proposés dans les bibliothèques publiques quelques jours seulement après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi de sécurité imposée par Pékin. Cette loi, entrée en vigueur mardi au même moment où ce contenu était publié, est destinée selon le gouvernement chinois à lutter contre les activités sécessionnistes, subversives et terroristes ainsi que les ingérences étrangères. La disparition de l'actrice égyptienne Raja Al-Ghidawi, décédée à l'âge de 81 ans, des suites de la maladie dû au nouveau coronavirus. L'actrice dont la carrière avait débuté dans le mannequinat jouait depuis son premier film Gariba, l'étrangère en 1958. Dans plus de 380 films, pièces de théâtre et feuilletons télévisés, aux côtés notamment des plus grands noms du cinéma égyptien. Quelques mots de météo pour fermer cette édition. Le temps de cet après-midi, ensoleillé au sud, mais nuageux à très nuageux avec de la pluie localement sur la moitié nord du pays.